À voix nue, Caroline Brouet,
Sylvie Berman, ambassadrice de France.
Quatrième épisode aux premières loges du Brexit. Bonjour Sylvie Berman.
Bonjour Caroline Brouet.
Pour ce quatrième temps déjà, j'aimerais que vous nous emmeniez au Royaume-Uni, puisque vous y avez été ambassadrice de France de 2014 à 2017, plus exactement ambassadrice de France à Londres. Déjà, est-ce que c'est un des postes les plus convoités de la diplomatie, ambassadeur de France à Londres ?
Oui, c'est un poste extrêmement prestigieux, mais généralement, on considère que c'est un peu un poste de fin de carrière. Et lorsque je suis arrivée à Londres, mes interlocuteurs britanniques m'ont dit « Après la Chine, vous allez vous ennuyer, il ne se passe jamais rien ici ».
Quand on a vu, comme c'est mon cas et je crois que c'est le vôtre, une série télévisée qui s'intitule « La diplomate », où l'on voit une femme qui vient d'arriver à Londres, alors elle est nommée ambassadrice des États-Unis, elle, mais et qui tente d'éviter une troisième guerre mondiale sur fond de guerre en Ukraine, de friction avec l'Iran, on se dit bah non, on s'ennuie pas quand on est en poste à Londres. Est-ce que vous avez eu à peu près la même expérience ou est-ce que votre vie londonienne est était plus faite de l'image qu'on a un peu cliché de l'ambassadrice, faite de mondanité, de faux sourires, de faux semblants et de rencontres au sommet.
Alors, on ne s'ennuie pas, d'abord parce que moi, j'ai connu, quand je suis arrivée, la campagne pour le référendum d'indépendance écossaise, ensuite le Brexit, et le rôle d'un ambassadeur est multifonctionnel, c'est-à-dire que c'est la promotion de l'influence française, c'est les relations diplomatiques, c'est des conférences dans des universités, c'est beaucoup de présence dans les médias britanniques qui sont très influents. Et puisque vous comparez avec la diplomate qui est amusante, mais pas du tout réaliste.
C'est pas la vraie vie.
C'est pas la vraie vie, d'autant plus qu'on a l'impression que c'est elle qui dirige le Foreign Office. Donc, c'est pas tout à fait la réalité. Mais ce que me disait un de mes homologues britanniques, c'est qu'en fait, il y avait deux ambassadeurs qui comptaient plus que d'autres au Royaume-Uni. C'est l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France. Parce qu'il y a cette proximité, parce qu'il y a toujours eu un peu cette relation, je dirais, d'amour-haine, enfin, bon, ce French bashing dont on parle tout le temps, qui est souvent très humoristique d'ailleurs, et puis effectivement une forme de concurrence des soft power. Alors, moi, quand je suis arrivée, Boris Johnson était maire de Londres, évidemment, il passait son temps à se moquer des Français, à dérouler le tapis rouge. Après la taxe Hollande, et puis à se vanter d'être maire de la quatrième ville de France. Il avait dit ça en recevant Alain Juppé, parce que Londres a une communauté française qui est supérieure à celle de Bordeaux. Et donc, voilà, c'est des relations qui sont toujours un peu de cette nature. Puis moi, j'ai vécu le 200e anniversaire de la bataille de Waterloo. Et il y avait tellement d'agressivité vis-à-vis de la France dans les tabloïds, hein, évidemment pas partout, que j'ai l'impression que la guerre avait eu lieu il y a 2 ans et non pas il y a 200 ans.
Sylvie Berman, la particularité aussi de ce monde anglais que vous rencontrez quand vous êtes à Londres entre 2014 et 2017, c'est que c'est une royauté et qu'à ce titre-là, je ne sais pas si le monde est plus protocolaire sous prétexte que c'est une royauté, mais que la façon de gouverner en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, a ceci de particulier, qu'il y a une reine et qu'il y a un Premier ministre. Avec qui avez-vous plus de rapports ? Est-ce que vous avez pu rencontrer la reine à plusieurs moments ? Est-ce que l'ambassadeur de France à Londres a des contacts privilégiés avec la reine ou avec le Premier ministre ? Comment cela se passait-il ?
D'abord, un ambassadeur est nommé auprès de la cour de Saint-James, et donc auprès de la reine, et non pas auprès du Premier ministre. Donc, c'est à elle que j'ai remis mes lettres de créance, et c'est un moment inoubliable, parce qu'elle incarne l'histoire avec un grand H, parce qu'elle a rencontré tous les grands de ce monde, et que c'est une personnalité très... très chaleureuse, en fait, très agréable et très informée. Moi, j'ai été étonnée par le niveau d'information qu'elle avait sur la relation franco-britannique. Bien sûr, elle a beaucoup voyagé en France, elle aime beaucoup la France, mais y compris sur des dossiers assez techniques, ce qui paraissait assez surprenant. Mais mes collègues m'ont dit, à l'occasion de la remise de l'aide de créance, qu'elle connaissait effectivement parfaitement les dossiers. Donc, il y avait des rencontres régulières avec la reine. Il y avait le bal de la reine chaque année. Il y avait la garden party à Buckingham Palace. Et effectivement, elle venait parler à tout le monde. Donc, on échangeait avec elle. Et je me souviens qu'un jour, c'est au moment où Emmanuel Macron avait déclaré sa candidature. Elle m'avait dit, il se passe des choses intéressantes en France. Puis plusieurs fois, elle m'a demandé, mais est-ce qu'il a un parti ? Tellement c'était inconcevable pour les Britanniques. Donc ça, c'est la royauté qui incarne l'unité, la continuité du royaume. Et c'est important pour son soft power, parce qu'elle est très respectée, elle était très respectée dans le monde. J'ai du mal à parler à l'imparfait. Mais en même temps, vous avez cette espèce de dichotomie avec un monarque qui règne mais qui ne gouverne pas, et vous avez le gouvernement. Et le contraste est assez fort, parce que autant vous avez un protocole, d'une certaine manière, on répète avant d'aller présenter ses lettres de créance à la reine. Autant, au contraire, les relations sont extrêmement simples avec le Premier ministre et les membres du gouvernement. Donc, en fait, c'est très différent du système français, où on parle toujours de la monarchie républicaine, où vous avez les fastes de la République avec un président de la République. Là-bas, c'est différent, parce que Premier ministre, c'est une maison assez simple. Le 10 Downing Street, c'est une maison bourgeoise. Et puis, vous contactiez, alors peut-être pas le Premier ministre par téléphone, mais les autres ministres par téléphone, vous les appelez par leur prénom. Enfin, c'est beaucoup plus sobre et beaucoup plus facile.
Vous parlez de la reine, vous avez aussi rencontré celui qui, à l'époque, était encore prince, devenu le roi Charles, Charles III. Il était à l'époque encore prince de Galles. Vous avez même dégusté un thé très raffiné dans des tasses de fine porcelaine. Et vous lui avez remis les insignes du mérite agricole en 2017.
Tout à fait, mais j'ai eu beaucoup de contacts effectivement avec lui parce que il était présent et avait fait l'ouverture de la COP21. Nous avions un programme très important de promotion de l'écologie et le prince Charles, bien sûr, on connaît son tropisme pour ces questions-là, qui était même finalement très précurseur et on se moquait de lui à l'époque. Mais il était très intéressé par ça, a fait un certain nombre de réunions. À l'époque, c'était Ségolène Royal qui l'avait invité. Il avait reçu également le ministre de l'Agriculture. Et c'est lui qui m'avait demandé de lui remettre les insignes. Et il en était très heureux. Et il les avait portés lorsque, en 2018, le président de la République est allé remettre la Légion d'honneur à la ville de Londres, puisque c'est lui qui l'a accueilli. Et j'ai vu qu'il portait la médaille que je lui avais remise, donc j'étais assez fière de cela. Mais c'est un homme intelligent, c'est un homme cultivé et plutôt gentil, parce que je l'avais aussi invité à mon arrivée, puisqu'il y avait le sommet de l'OTAN à Cardiff, et je l'avais invité sur un bâtiment français de la marine qui était là. Il est venu, il m'a dit qu'il voulait parler en français avec les marins, et s'était adressé à chacun d'entre eux.
Madame l'ambassadeur, vous racontiez qu'à votre arrivée, vous avez vécu le référendum sur l'indépendance de l'Écosse dès le 18 septembre. En même temps, à part cette anicroche à la couronne, tout allait bien au Royaume-Uni à peu près à cette époque-là, et pourtant tout a basculé, et plutôt soudainement. C'était un pays qui allait bien, qui avait organisé les JO en 2012, qui avait tout pour lui, et qui, je reprends vos termes, a fini par se saborder avec ce Brexit. Vous avez tout vécu de l'intérieur, Sylvie Berman. Vous avez raconté même le Brexit vu de l'ambassade dans un livre intitulé « Goodbye Britannia, le Royaume-Uni au défi du Brexit » paru en 2021 chez Stock. D'ailleurs, c'est un récit assez haletant, comme un thriller truffé de références littéraires qui emprunte à la fiction et à la série, peut-être pas La Diplomate, mais d'autres, certains codes. Alors racontez-nous, comment vous avez vécu cette aventure, parce que c'est quand même une aventure, de l'intérieur. Et comment surtout avez-vous compris ce qui s'est passé ?
Alors d'abord, effectivement, quand vous dites que le Royaume-Uni allait bien, il allait très bien. Il avait un taux de croissance, je crois, de 3%, bien supérieur aux autres pays d'Europe. C'était un pays qui était optimiste après les Jeux Olympiques. Et en fait, les membres du gouvernement français, Manuel Valls, plus tard Emmanuel Macron comme ministre de l'économie, venaient pour voir quelles étaient les recettes du succès britannique. C'est pour cette raison-là que, effectivement, le Brexit paraît une décision aberrante dans le contexte et qu'on n'a pas vu venir un petit peu pour cette raison-là, parce que beaucoup de Britanniques nous disaient que, de toute façon, reprenant une formule de Napoléon, qui disait que l'Angleterre était une nation de boutiquiers, que bien évidemment, ce seraient les considérations économiques, le portefeuille qui l'emporterait sur toute autre considération. Et la campagne a commencé sur ce thème avec des chiffres donnés par les partisans du maintien dans l'Union européenne. Jusqu'à la veille, même pas la veille, mais dans la nuit, on pensait encore que le maintien dans l'Union européenne allait l'emporter. Les derniers sondages à 22 heures, qui étaient des sondages non officiels, disaient la même chose. Moi, j'étais dans une soirée électorale où il y avait plusieurs ministres et on s'est quitté plutôt optimiste vers 11 heures du soir.
Et puis rien
ne s'est passé effectivement comme prévu. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes, je recevais tout le monde à l'ambassade et tout le temps, je recevais des parlementaires qui normalement étaient en contact avec leur circonscription, je recevais des sondeurs, je recevais bien sûr des journalistes toujours bien informés, des chercheurs. Et puis, comme le petit déjeuner, le breakfast est une tradition au Royaume-Uni, que j'avais une belle résidence qui donnait sur Kensington Gardens. Du coup, ils aimaient bien venir. Donc, on faisait des petits déjeuners assez matinaux et j'invitais un peu un par un les parlementaires pour qu'ils soient libres de parler. Et aucun n'y croyait. Je me souviens d'avoir reçu le président de la Commission des Affaires étrangères, un grand Brexiteur, qui avait reçu d'ailleurs aussi quelques jours avant une délégation sénatoriale, et à qui il avait dit « voilà, moi je veux quitter l'Union européenne pour telle raison ». Mais je sais très bien qu'on va rester, puis disait en plaisantant, on va continuer à vous embêter, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez qu'on reste ? Et je revois la même personne 15 jours après la décision de Brexit, il m'a dit oui, j'aurais parié tout ce que j'avais qu'on allait rester dans l'Union européenne, parce que c'était la décision raisonnable et que c'était dans l'intérêt du Royaume-Uni. Le pays de Galles, qui recevait le plus de contributions de l'Union européenne, n'a voté Brexit. Alors, seule la ville de Londres, effectivement, a voté pour le maintien dans l'Union européenne, parce que c'est une ville assez cosmopolite. Donc, il y a eu plusieurs raisons à cela. Il y a eu l'immigration, parce qu'il y a eu une crise migratoire très, très importante en 2015. Et puis, également, ce nationalisme, ce sens de l'exceptionnalisme britannique et l'identité qui n'est pas l'identité britannique, qui est l'identité anglaise.
Oui, vous dites même que ce pays, vous aviez été frappé par cette obsession des Britanniques de l'identité anglaise, en effet.
Voilà. Enfin, en tout cas, ceux qui sont justement, qui se considèrent comme anglais plus que britanniques, ceux qui se définissent comme britanniques, peuvent être à la fois britanniques et européens. Et donc, ils ont commencé à parler, c'est toujours été un peu réflexe, la Deuxième Guerre mondiale, disant que c'était eux qui l'avaient gagné, que la France avait été collaboratrice du Troisième Reich et qu'elle devenait collaboratrice du Quatrième Reich, dirigée par l'Allemagne. C'est comme ça que certains idéologues voyaient l'Union européenne. C'est aussi une époque où ils ont beaucoup utilisé Cambridge Analytica, les réseaux sociaux, du côté des Brexiteurs. Et ça, les autres ne l'ont pas vu. C'est-à-dire ils sont restés dans une campagne très classique, fondée sur les intérêts économiques d'un maintien du Royaume-Uni dans le Brexit. Et moi, je me souviens, quand j'avais des réceptions à l'ambassade, la majorité était plutôt pour le maintien dans l'Union européenne. Puis, de temps en temps, ils avaient un Brexiteur parmi eux et nous le présentaient un peu comme quelqu'un de farfelu. Et donc, personne en réalité n'y croyait, les bookmakers non plus. Et en fait, je pense que les parlementaires, qui normalement devraient connaître leur circonscription, ont peut-être pas assez eu de contact et n'ont vu que un petit peu des membres de leur parti. Et donc, ils ont eu des informations un petit peu illusoires. Cela dit, je dis aussi dans mon livre que c'est comme le match point de Woody Allen, si vous vous souvenez de la fin, c'est que la balle oscille sur le filet et qu'elle pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. Et ça a été un immense choc le lendemain matin, parce que personne n'a compris ce qui s'était passé. Partisans du maintien dans l'Union européenne étaient désespérés, certains pleuraient, on dit qu'ils allaient continuer le combat, et puis les Brexiteurs étaient surpris de leur victoire. Et d'ailleurs, Boris Johnson, qui a été l'artisan majeur du Brexit, parce que bon, l'ultranationaliste Nigel Farage avait 3 millions de voix, c'est beaucoup, mais c'est tout, c'est Boris Johnson qui a légitimé le Brexit, alors que lui-même n'était pas nécessairement Brexiteur, mais son calcul, c'est qu'il avait des chances de devenir Premier ministre en soutenant cette tendance au sein du parti.
À l'époque, est-ce que vous, en tant qu'ambassadrice, vous aviez des dialogues, des discussions sur le Brexit avec, par exemple, le Premier ministre David Cameron?
Oui, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le rencontrer. D'abord, il y a eu le sommet d'Amiens, où il a rencontré François Hollande. Et je me souviens qu'il était avec le ministre des Affaires étrangères, que je voyais beaucoup, Philippe Hammond, qui est un ancien eurosceptique et qui, par la raison, était devenu partisan du maintien dans l'Union européenne. Et je me souviens de cette conversation en attendant François Hollande, où ils étaient sûrs de la victoire. Parce que le problème, c'est qu'au Royaume-Uni, il fallait toujours un peu s'afficher eurosceptique, ce qu'avait fait David Cameron. À chaque fois qu'il rentrait d'un Conseil européen à Bruxelles, il se vantait d'avoir combattu telle initiative européenne allant à l'encontre des intérêts britanniques, initiative qui n'existait d'ailleurs pas. Mais voilà, il a entretenu cet euroscepticisme pendant longtemps. Et puis du jour au lendemain, il s'est fait le héros d'un maintien dans l'Union. Donc, il était difficilement crédible.
La position française à l'époque, c'était quand même plutôt de rester dans l'Union européenne, enfin qu'elle espérait, disons, que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Est-ce que c'était aussi votre rôle? Est-ce que ça pouvait faire partie de vos attributions d'essayer de convaincre David Cameron que c'était une mauvaise idée d'organiser ces élections?
Alors, pour ce référendum, je crois que pour le référendum, c'était un peu tard, je me souviens une fois d'une réunion avec celui qui a dirigé la campagne du IN, comme on disait, et il m'a demandé si j'avais des conseils. Alors je dis oui, j'aurais un conseil, mais c'est trop tard. C'est de ne pas organiser le référendum, parce que je me souvenais très bien du référendum de 2005, puisqu'à l'époque j'étais à Bruxelles comme ambassadeur comité politique et de sécurité, et je me souviens du choc qu'a été le non à ce référendum-là.
À la Constitution européenne.
Et à la Constitution européenne. Et donc, alors après, bon, j'ai effectivement beaucoup parlé avec eux. Je suis beaucoup intervenue dans les médias aussi, puisque j'étais souvent interrogée, mon collègue allemand aussi. Donc moi, j'avais une position très claire et que je pouvais exprimer. Je n'avais pas d'instruction en ce sens précise de Paris, mais enfin, c'était évident que, en tout cas, nos autorités auraient souhaité le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne.
Pour terminer sur le registre du Brexit, est-ce que, on est quelques années après maintenant, hein, en 2024, est-ce que vous pensez, comme l'historien Timothy Garton-Ash, que, en dépit du décès de la reine, du changement de Premier ministre, des nombreux défis qui attendent la monarchie britannique, et après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les institutions même britanniques, puisqu'on parlait de ces institutions au début de cet épisode, ont tenu bon, font preuve de robustesse, que c'est un pays aux institutions extrêmement solides?
Oui, c'est vrai, des institutions. Enfin, d'ailleurs, on se souvient que Boris Johnson avait essayé de reporter les réunions du Parlement, qu'il avait menti à la reine, qu'il y avait une décision de la Cour suprême. À ce moment-là, il avait d'ailleurs voulu supprimer la Cour suprême, mais oui, les institutions ont tenu. Alors, cela dit, Timothy Gartenhage, que je connais bien, qui était un des partisans résolus du maintien dans l'Union européenne, et très critique sur le Brexit, et même si les institutions ont tenu, le Royaume-Uni ne va pas bien. Sur le plan économique, il a perdu beaucoup, il y a surtout du manque à gagner. Il y a quand même des procédures très, très compliquées pour les pêcheurs, pour les paysans, pour les agriculteurs britanniques également, d'ailleurs qui étaient plutôt brexiteurs et qui ont mesuré les conséquences. Et puis je pense que c'est un pays qui... sur le plan de la politique étrangère, n'a pas de grande visibilité. Alors certes, il y en a eu sur l'Ukraine, mais autrement, c'est soit le soutien inconditionnel à Washington, soit un peu l'invisibilité. Et c'est un pays qui avait aussi une influence considérable dans l'Union européenne parce qu'il considérait pouvoir être un pont entre les États-Unis et l'Union européenne, et relayer les positions des uns et des autres. Évidemment, il a perdu totalement ce rôle.
Est-ce que vous diriez également que le Brexit a changé, modifié la relation franco-britannique, en bien, en mal ? Vous n'avez pas eu le temps forcément de voir les effets immédiats, puisque vous êtes parti en 2017, mais vous pouvez les constater.
Oui, bien
vous
sûr.
Voir un changement même
Les relations sont considérablement dégradées. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Rishi Sunak, parce qu'il y avait aussi bien pas tellement chez Theresa May, mais elle a eu un rôle assez ingrat, mais avec Boris Johnson et puis Liz Truss, même si elle n'est pas restée longtemps, une véritable hostilité vis-à-vis de la France. Et les relations, ont été presque au point mort, avec de temps en temps des accusations d'un côté comme de l'autre. Donc ça s'est amélioré avec Rishi Sunak, parce que c'était un Brexiteur, mais c'était pas un militant très idéologue. Et donc, il a rétabli les relations avec la France. Mais je pense quand même que ça reste un manque à gagner. Et on le voit avec la guerre en Ukraine. C'est que, bien évidemment, qu'entre Londres, Berlin et Paris sont sur une même position, on a plus de force dans le monde, plus de poids dans le monde, et également on peut entraîner les autres membres du Conseil de sécurité. On voit que le tête-à-tête franco-allemand est difficile, et quand il y avait un triangle, parfois nous nous rapprochions des Britanniques pour inciter les Allemands à s'intéresser à une initiative ou à partager nos positions. Et ça marchait bien.
Est-ce que ça reste, Sylvie Berman, cet épisode du Brexit, comme un moment pour vous, ambassadrice, un moment important, un moment où vous vous êtes sentie malgré tout utile, où finalement vous avez regardé ce qui se passait dans ce pays-là d'un point de vue d'étrangère, peut-être même de spectatrice, d'observatrice, mais sans pouvoir vraiment agir? Comment l'avez-vous vécu personnellement?
Comme je vous l'ai dit, je suis intervenue assez souvent pour
vous avez fait ce que vous pouviez.
Manifester les positions qui étaient celles de la France ou mes convictions personnelles. Le résultat...
Vous pouvez pas faire plus.
Non, je ne pouvais pas faire plus, bien entendu, mais j'avais établi des relations de confiance avec une grande partie de la société britannique et des hommes politiques. Mais bon, voilà... Ce vote en a décidé autrement. Je me souviens d'une phrase en particulier qui était utilisée par les Brexiteurs, c'est « ça nous est égal d'être plus pauvres parce qu'on va être libres ». Et voilà, c'est quelque chose que je contestais évidemment en permanence, en disant que la France était libre, que l'Allemagne était libre aussi. Mais ça a été très idéologique et complètement contraire à ce qu'on imaginait du comportement des Britanniques.
Vous avez rencontré de nombreux parlementaires, vous le disiez, de nombreuses personnalités politiques, mais vous avez aussi, au cours de ces 3 ans et quelques, passé à Londres et passé en Grande-Bretagne, fréquenté beaucoup d'écrivains, puisque vous continuez de lire énormément et d'aimer la fréquentation des écrivains. Donc vous avez vu Julian Barnes, William Boyd, Jonathan Coe, Azuo Ishiguro, John le Carré également. John le Carré, vous avez rencontré.
Oui, mais toutes ces rencontres étaient pour moi très émouvantes parce que je les lis depuis toujours, tous ces écrivains. Et puis, John le Carré, bon, c'était un mythe, donc j'étais très heureuse de le voir. On a pris une photo devant le portrait de Talleyrand qui était dans les escaliers de l'ambassade. Et en fait, il m'avait apporté, dédicacé 2 ou 3 de ses livres. Et comme c'était après le Brexit, dans un des livres, il disait « Est-ce que le fait que nous soyons nés le même jour peut me valoir la nationalité française ?» Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. On a continué à correspondre d'ailleurs parce que je lui souhaitais son anniversaire depuis Moscou. Et il me répondait, et parce qu'on est nés tous les deux le 19 octobre, et puis il avait beaucoup vécu, ou était à Moscou, puisque son frère était correspondant du Times, je crois.
Vous aviez des choses à partager également.
Oui, tout à fait. Non, c'était vraiment une belle rencontre.
Et puis vous avez visité des maisons d'écrivains fameux, les maisons de Dickens, de Jane Austen, d'Agatha Christie. Bon, comme quoi ça n'est pas que un moment cantonné dans une résidence, même si la résidence est splendide à Londres en l'occurrence, et pas que des moments de tension, pas que des moments d'action. Vous avez pu aussi en profiter un peu de ce pays que vous avez aimé ?
Bien sûr, non, j'ai beaucoup aimé ce pays et effectivement, j'ai beaucoup lu la littérature britannique. J'ai adoré Dickens, bien sûr. Et c'est vrai que quand on est jeune, aujourd'hui, on traduit les auteurs d'à peu près tous les pays, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et Dickens, c'est un classique pour des Français, comme pour les Anglais. C'est le patrimoine mondial. J'étais très heureuse de retrouver ça. Et comme je disais, j'adorais également les high tea cette vie anglaise très, très confortable. Les universités anglaises, ces temples du savoir et ces journalistes qui sont extrêmement rigoureux. Les grands journalistes du Financial Times, des Economist. Donc c'était un bonheur et un bonheur sur le plan intellectuel aussi.
Au final, vous ne vous êtes pas ennuyée ?
Eh bien, pas du tout.
Merci Sylvie Berman. On se retrouve pour la dernière émission. Demain, nous parlerons du monde. Quelle diplomatie pour quel monde ? Épisode 5. À demain.
À demain.
C'était À voix nue avec Sylvie Berman, réalisation Angélique Thibault, prise de son Virginie Lorda, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.